France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Suite à de récentes informations concernant une possible opération stratégique entre PSA d'un côté et Fiat Chrysler de l'autre, les deux groupes automobiles ont confirmé ce matin que des discussions étaient en cours afin de créer un géant valorisé à 50 milliards de dollars.
Le Conseil français du culte musulman a tenu hier une réunion exceptionnelle de son conseil religieux au lendemain d'une rencontre avec le président Emmanuel Macron.
Oui, pour en parler, invité du journal dans une dizaine de minutes, Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris et président par intérim du CFCM.
Comme attendu, la réaction courroucée de la Turquie au lendemain de la reconnaissance par la Chambre des représentants des États-Unis du génocide arménien n'aura pas tardé.
Ankara a convoqué dès ce matin l'ambassadeur américain. Et puis nous irons également au Cachemire indien, véritable poudrière depuis la révocation par le gouvernement nationaliste hindou de son autonomie constitutionnelle. Hier, c'est dans cette région himalayenne à majorité musulmane que des heurts se sont produits au moment de la visite controversée d'une trentaine d'eurodéputés majoritairement issus de formations d'extrême droite. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Elle signe un éloge du Métèque où elle explore cette figure de l'exil, cet autre qui fascine ou qui nous inquiète. La journaliste et essayiste Abnous Chalmani est notre invitée à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Quelques mois à peine après sa fusion avortée avec Renault, le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler s'apprêterait donc à convoler avec son concurrent français Peugeot. L'information révélée par le Wall Street Journal a été confirmée ce matin. Des discussions sont bel et bien en cours pour parvenir à ce mariage qui, le cas échéant, serait susceptible de créer rien de moins que le quatrième constructeur mondial, un géant d'une valeur de 50 milliards de dollars. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors, parce que ce projet d'alliance s'inscrit dans une longue série de rapprochements réussis mais aussi ratés de l'histoire de l'automobile européenne depuis déjà une vingtaine d'années, il convient de rester prudent. Mais d'ores et déjà, on saisit bien, Hakim, les avantages que pourraient donc tirer de cette fusion les deux entités. PSA d'un côté qui reviendrait ainsi par la grande porte sur le marché américain, puis FCA de l'autre en quête d'un partenaire en Asie.
Oui, l'intérêt de PSA pour le groupe italien ne date pas d'aujourd'hui. Carlos Tabarez, le PDG de PSA, avait déjà tenté de se rapprocher du constructeur italien il y a plusieurs mois. Concrètement, les deux marques ont besoin l'une de l'autre pour différentes raisons. PSA, en doublant sa production, pourrait générer du volume, ce qui lui permettrait de réduire ses coûts de production et de se rapprocher des 8 millions de véhicules par an produits par le groupe Renault-Nissan. D'autant que l'automobile connaît une double révolution actuellement, avec à la fois la voiture électrique et la voiture autonome qui nécessite de très lourds investissements financiers et en recherche et développement. Pour PSA, l'enjeu est aussi le marché américain, sur lequel il n'est pas du tout présent, ce qui n'est pas le cas du groupe Fiat Chrysler, avec notamment deux marques aux États-Unis, très importantes, qui sont Jeep et Ram, des véhicules très polluants et pas du tout adaptés au marché européen, mais qui génèrent beaucoup de marge. Le groupe italien est aussi très présent en Amérique latine, notamment au Brésil. Quant au groupe Fiat Chrysler, il a besoin de PSA, car il a aujourd'hui beaucoup de retard, notamment sur ses ventes. Il est très endetté, ses ventes sont très mauvaises et il a accumulé trop de retard sur les normes anti-pollution imposées par Bruxelles à partir de l'année prochaine, ce qui va l'obliger à payer de très lourdes pénalités. Enfin, pour être validé définitivement côté français, cette opération devra avoir l'aval de Bercy, puisque l'État détient 12% du capital de PSA.
Merci Hakim Kasmi. Et puis j'ajoute, on vient de l'apprendre, que Fiat Chrysler donc et Peugeot pourraient annoncer leur fusion dès demain. Le service reste encore très perturbé aujourd'hui sur l'axe reliant Paris à la Bretagne, au Pays de la Loire et au Sud-Ouest à la suite d'une grève au Technicentre de Châtillon, spécialisé dans la maintenance quotidienne des trains. On parle en moyenne de 3 TGV sur 10. Je vous rappelle que cette grève fait suite au projet de la direction de supprimer 12 jours de repos supplémentaires par an prévus pour compenser le travail de nuit et de week-end de ses salariés touchant de bas salaires. C'est une mesure glissée très discrètement dans le budget 2020 de l'éducation nationale en débat à l'Assemblée. Et pourtant, à moins que ce n'en soit précisément la raison, elle est en mesure de déclencher des cris d'orfraie puisqu'elle prévoit ni plus ni moins de réduire de moitié les fonds sociaux. Alors de quoi s'agit-il ? Ces crédits viennent en aide aux familles les plus défavorisées pour payer par exemple la cantine, mais aussi les transports scolaires ou les activités culturelles. D'où l'incompréhension du porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'éducation publique, Hubert Salin, pour qui on ne mesure pas combien les conséquences de cette mesure seront en tout point regrettables.
On sait que la misère ne diminue pas, que les élèves ont grande difficulté. J'ai calculé rapidement ce que ça représente, la baisse du budget. Le budget disponible pour aujourd'hui, c'est à peu près 2 repas de cantine par élève. Donc ça ne représente quand même pas grand-chose par rapport au budget total. Et les familles en ont vraiment besoin. Et un élève qui travaille bien, qui est dans le bien-être à l'école, c'est aussi un élève qui peut rester manger à la cantine, qui peut faire des sorties, qui n'est pas en difficulté, qui peut avoir des lunettes. Hein, voilà, puisque tout ça rentre dans le domaine des fonds sociaux. Si la culture est importante, on ne doit pas laisser les élèves à la maison quand d'autres peuvent aller au théâtre, par exemple. Et puis, contrairement à ce que les gens pensent, plus les gens sont modestes, moins ils utilisent les aides qu'ils peuvent avoir. Parce que bien souvent, quand il y a une facture qui arrive ou des difficultés, ben les familles ne vont pas s'adresser au lycée pour demander une aide. Elles vont assumer elles-mêmes les difficultés et puis en privant leurs enfants de ce qui est sortie scolaire, de ce qui est accès aux soins. Donc c'est vraiment un mauvais signal donné à ces familles-là. Quand on regarde par exemple au niveau des bourses, puisqu'on nous parle d'une augmentation des bourses, on s'aperçoit que dans certains établissements, beaucoup de familles ne demandent pas les bourses parce qu'elles ne sont pas au courant, parce que l'information n'a pas été faite. Il y a des établissements qui appellent toutes les familles pour savoir si elles rentrent dans le dispositif. Et puis dans d'autres établissements, on met un papier dans le sac de l'élève et puis ça suffit, quoi.
C'était un vote inédit aux États-Unis. Il a été accueilli par des applaudissements nourris dans l'hémicycle. Hier, la Chambre des représentants a formellement reconnu le génocide perpétré il y a plus d'un siècle sous l'Empire ottoman contre les Arméniens. Le texte non contraignant a été adopté à une immense majorité par 405 voix sur 435. Autrement dit, avec une union suffisamment rare entre démocrates et républicains pour être soulignée. Alors cette proposition de loi qui doit encore être approuvée par le Sénat à une portée essentiellement symbolique, ce qui n'enlève rien à son caractère historique. Et bien entendu, elle a instantanément suscité la colère de la Turquie. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour.
Ankara condamne aujourd'hui un acte politique dénué de sens, c'était prévisible. La Turquie a d'ailleurs convoqué dès ce matin l'ambassadeur américain à Ankara, sauf que cette convocation, Bertrand, n'est pas seulement liée à l'adoption donc de ce texte sur la reconnaissance du génocide arménien, mais aussi à l'ire de plusieurs responsables et élus américains suite à l'opération déclenchée par la Turquie contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie.
Oui, une attaque rendue possible par le quasi-feu vert donné par Donald Trump à la Turquie contre l'avis de son état-major et de beaucoup d'élus au Congrès, y compris parmi les républicains. Il y a dans la relation entre Washington et Ankara une part liée à l'inconséquence de Donald Trump, à ses revirements, ses coups de menton, sa vision très personnelle et souvent erratique des relations internationales. Et puis il y a un rapport schizophrénique, paradoxal, qui s'explique par l'histoire et la géopolitique. Pendant longtemps, la Turquie a été l'un des principaux piliers de l'OTAN dans cette région du monde, un allié stratégique et fiable pour les États-Unis. L'arrivée au pouvoir de l'AKP, la captation des pouvoirs par Erdogan et ses dérives autoritaires et religieuses ont mis du temps à inquiéter Washington. Les signaux faibles, puis de plus en plus évidents sur l'ambiguïté d'Ankara face aux islamistes en Syrie, ont conduit les militaires américains à prendre leur distance. Et même si Donald Trump a pris soin de remercier la Turquie parmi d'autres après l'opération menée contre al-Baghdadi, même si Ankara insiste sur la coordination entre services de renseignement des deux pays, la réalité est que les Turcs ont été mis devant le fait accompli en raison de la méfiance du Pentagone. Une prudence qui se manifeste aussi dans les relations au sein de l'OTAN. Les États-Unis surveillent leur allié qui achète des missiles à la Russie et coopère avec Moscou dans l'occupation d'une partie du territoire syrien. Pour l'instant, Donald Trump laisse en suspens les lourdes sanctions économiques dont il a menacé la Turquie. Celles qui frappaient timidement 3 ministres du régime ont été levées par Washington vendredi dernier.
Merci Bertrand Galichet. Quand l'émissaire spécial de l'ONU parle de lueur d'espoir, on imagine surtout combien le risque est grand de voir vaciller, sinon s'éteindre, la flamme d'une bougie ô combien fragile. La scène n'en restera pas moins inédite. Pour la première fois en 8 ans de guerre, représentants du gouvernement syrien, de l'opposition, de la société civile répartis de façon équitable ont accepté de s'asseoir autour d'une même table aujourd'hui à Genève au sein d'un comité constitutionnel. Alors cela ne signifie pas, loin de là, que le régime est prêt à accepter un changement de la constitution tel que réclamé par l'opposition, sans compter que cette dernière est aujourd'hui tellement affaiblie qu'elle n'est plus en position d'imposer ses conditions. Aucun calendrier n'a par ailleurs été fixé pour le déroulement de ces discussions qui auront donc surtout valeur de tests. Pendant ce temps, sur le terrain, les forces kurdes ont, elles, achevé hier leur retrait du territoire du nord-est de la Syrie, sur lequel la Turquie entend créer une zone dite de sécurité, concrètement et en réalité un espace où se débarrasser des réfugiés syriens, pour la plupart arabes, présents sur son sol, et s'en servir ainsi comme barrage contre les Kurdes. De son côté, le pouvoir syrien se déploie dans des secteurs du nord qui lui échappaient depuis 2012, de sorte que son armée se retrouve désormais à proximité des soldats turcs. Hier, des affrontements ont d'ailleurs opposé l'armée turque aux forces de Damas, causant la mort de 6 soldats syriens. Bref, une reconfiguration des forces sur le terrain qui illustre une fois de plus toute la complexité de ce conflit dans lequel sont impliqués de multiples belligérants avec des alliances en constante évolution. Toujours est-il que pour les Kurdes, longtemps fer de lance de la lutte anti-Daesh, eh bien le retour du régime de Damas dans le nord risque de leur faire perdre leur autonomie, de facto arrachée à la faveur de cette guerre. Eux aussi ont le sentiment d'avoir été poignardés dans le dos. Eux, ce sont les quelques 8 millions d'habitants du Cachemire indien, à majorité musulmane, et qui l'été dernier ont brutalement perdu l'autonomie constitutionnelle de leur région dans une décision du gouvernement nationaliste hindou. Or voilà qu'on apprend que lundi dernier, sans craindre de rajouter du scandale au scandale, le Premier ministre Narendra Modi a non seulement déroulé le tapis rouge à 27 eurodéputés, pour la plupart issus des bancs de l'extrême droite, mais qu'il leur a organisé 2 jours de visite dans cette région désormais coupée du monde par le pouvoir. Julie Pietri, bonjour.
Bonjour.
Alors il faut préciser que depuis la suppression donc abrupte de son autonomie, cette vallée rebelle du Cachemire reste muselée par l'interdiction de rassemblement, l'absence de communication. Aucun journaliste n'a été jusqu'à présent autorisé à s'y rendre. Dès lors, Julie, comment cette visite s'est-elle organisée?
Ils ont passé donc ces eurodéputés une journée et demie sur place précisément. Visite extrêmement encadrée, cornaquée, avec rendez-vous bien sûr avec l'armée. Dans cette zone verrouillée par le gouvernement indien, où ni journalistes ni opposants politiques ne peuvent donc se rendre, où la plupart des responsables locaux sont en détention et où les habitants, pour la plupart musulmans, donc subissent restrictions de circulation, coupures de téléphone et d'internet, officiellement pour lutter contre les rebelles séparatistes. Thierry Mariani, député européen, membre du Rassemblement National, déjà passé, lui, en visite en Afghanistan ou en Syrie, dit être là sur invitation d'un groupe de réflexion indien et ne pas vouloir interférer dans la politique interne du pays, même s'il a bien rencontré le Premier ministre indien.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité de mon pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai pas envie qu'on retrouve des combattants éventuellement européens au Cachemire qui préparent et qui accomplissent des attentats ailleurs dans le monde, et notamment en France ou en Europe. La crainte de beaucoup, c'est que le Cachemire devienne, après la Syrie, le nouveau foyer du terrorisme international.
Sur place, la visite de ces députés européens issus du Rassemblement National, mais aussi de la Ligue italienne ou du Parti polonais Droit et Justice, a choqué, provoqué des heurts aussi. Comment peut-on lire sur le compte Twitter de l'ancien Premier ministre de l'État du Cachemire, aujourd'hui assigné à résidence, comment le gouvernement peut escorter des islamophobes dans cette zone où des millions d'habitants, surtout musulmans, vivent opprimés? Comment peut être reçu dans ces conditions ce tapis rouge ainsi déroulé, alors que le gouvernement du nationaliste hindou Narendra Modi mène par ailleurs une politique d'exclusion des musulmans au niveau national, exclusion de la citoyenneté et rejet aussi des réfugiés rohingyas qui fuient les persécutions en Birmanie. L'Union européenne, de son côté, a précisé que cette visite était bien privée, en rien officielle, en rien représentative des positions de l'Union.
Merci Julie Pietri. Après 13 jours de révolte populaire marquée hier encore par les assauts de dizaines d'assaillants armés de bâtons contre les contestataires, le Premier ministre libanais Saad Hariri et son gouvernement ont donc fini par démissionner, de quoi offrir une première victoire à ses citoyens de tous âges, de tous horizons et dans toutes les régions du pays qui, 2 semaines durant, auront maintenu quotidiennement la flamme de ce mouvement spontané à l'encontre d'une classe politique jugée unanimement incompétente, corrompue et surtout responsable d'avoir fait sombrer économiquement le pays. Reste évidemment à savoir jusqu'à quel point ce revirement de situation s'avérera ou non spectaculaire. La marge de manœuvre, on le sait, est limitée entre partenaires politiques. D'une part parce que le prochain Premier ministre doit être sunnite, de la même manière que le chef de l'État doit être maronite et le président du Parlement chiite. Et d'autre part parce que cette révolte populaire n'a pas fait émerger de nouvelles têtes au sein de cette classe politique quasiment inchangée depuis la fin de la guerre civile il y a 30 ans, quand le départ du Premier ministre ouvre surtout au fond une nouvelle ère d'incertitude. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de se rappeler comment avait été formé le gouvernement aujourd'hui démissionnaire après 8 longs mois de tractations entre les innombrables composantes de la vie politique et confessionnelle libanaise. S'il fallait encore se convaincre du tropisme diplomatique oriental de Viktor Orban, la visite aujourd'hui en Hongrie de Vladimir Poutine à quelques jours de celle prévue cette fois-ci avec le président turc Erdogan devrait y suffire. Depuis son retour au pouvoir en 2010, le premier ministre hongrois, partisan de la démocratie illibérale et admirateur déclaré du chef de l'État russe, prend un soin particulier à entretenir ses relations avec Moscou. Il devrait notamment être question aujourd'hui d'un important contrat d'approvisionnement gazier ainsi que de l'élargissement de l'unique centrale nucléaire du pays. Au Royaume-Uni, la quatrième fois aura donc été la bonne hier. Boris Johnson a enfin obtenu des députés un vote en faveur de l'organisation d'élections anticipées, a priori le 12 décembre prochain. La Chambre des Lords doit encore approuver le texte, mais le vote devrait être une simple formalité, ce qui signifie qu'après 3 ans et demi de tromperie et de chaos et 1 an de blocage parlementaire total, eh bien ce scrutin, le troisième en moins de 5 ans, devrait donc permettre de rebattre les cartes. Alors pour l'heure, tous les sondages prédisent une avance confortable aux conservateurs sur les travaillistes, mais rien ne dit que le soutien dans les enquêtes d'opinion ne se traduira nécessairement dans les urnes. Tout d'abord parce que depuis le référendum sur le Brexit, force est de constater que rien n'est jamais simple outre-Manche. Et puis les partisans de la sortie de l'Union européenne pourraient également reprocher à Boris Johnson de ne pas avoir réussi le divorce comme il l'avait promis avant le 31 octobre, accord ou pas. Les sénateurs français ont adopté hier une proposition de loi visant à interdire le port des signes religieux lors des sorties scolaires, mesure qui ne pourra toutefois entrer en vigueur que si l'Assemblée nationale s'en saisit et l'approuve, ce qui a peu de chances d'arriver dans la mesure où la Chambre basse est dominée par La République En Marche, laquelle y est largement hostile. Quoi qu'il en soit, ce débat prévu depuis plusieurs jours est survenu dans un contexte particulier, en l'occurrence au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne par un homme qui a ouvert le feu blessant 2 septuagénaires avant d'être interpellé ce matin. Le procureur de la ville a précisé qu'une expertise psychiatrique de l'assaillant avait conclu à une altération partielle de son discernement et ou du contrôle de ses actes, un diagnostic qui n'entame pas sa responsabilité pénale. En revanche, c'est probablement la raison pour laquelle le parquet national antiterroriste a indiqué pour sa part qu'il n'entendait pas se saisir du dossier. Puis on rappellera par ailleurs que le débat sur le voile islamique a lui ressurgi il y a 3 semaines avec des récriminations d'un élu du Rassemblement national contre une mère voilée qui accompagnait des élèves à un conseil régional. Depuis, gouvernement et majorité se déchirent sur ce thème au point de conduire Emmanuel Macron à envisager de nouvelles mesures pour faire respecter la laïcité mais aussi lutter contre le communautarisme. Ce matin d'ailleurs, on apprend que le chef de l'État a accordé un entretien à paraître demain dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, généralement classé à droite et parfois même à l'extrême droite. Entretien dans lequel Emmanuel Macron affirme sa fermeté sur l'immigration. Enfin, toujours s'agissant d'islam et de laïcité, le Conseil français du culte musulman a tenu hier une réunion exceptionnelle de son conseil religieux au lendemain d'une rencontre avec le chef de l'État, Antoine Maretz. Bonjour.
Bonjour.
On se souvient qu'Emmanuel Macron avait appelé la veille les responsables du CFCM à combattre le communautarisme et l'islamisme. Quelle réponse, Antoine, aura finalement apporté l'instance représentative du culte musulman ?
Eh bien, sur la question de la radicalisation, le CFCM a annoncé la mise en place d'une commission avec une mission énigmatique, définir les grands signes de radicalité. C'est un thème qui est revenu dans le débat depuis notamment, vous le disiez, la tuerie survenue à la préfecture de police de Paris, même si la piste terroriste n'est plus privilégiée. L'idée qu'il y a des symptômes avant-coureurs qui permettent de détecter un passage à l'acte terroriste, sauf que la radicalisation n'est pas toujours apparente et que la radicalisation n'implique pas toujours un passage à l'acte terroriste. Et puis il y a bien sûr les risques de raccourcis, par exemple le port de la barbe ou encore la pratique du ramadan, ils ne sont pas en eux-mêmes des signes de radicalisation. Alors quelles pourraient être les conclusions de cette commission ? Le mystère plane, elle devrait rendre sa copie d'ici à la fin de l'année. Le CFCM a par ailleurs défendu le port du voile, il s'agit selon lui d'une prescription religieuse, tout en ajoutant, celles qui ont décidé de s'en affranchir ne sont pas moins musulmanes et restent dans la communauté des croyants. Une déclaration qui semble faire écho à l'examen hier au Sénat d'une proposition de loi visant à interdire le port de signes religieux ostensibles aux maires accompagnant les sorties scolaires.
Merci Antoine Maretz. Et pour poursuivre donc ce débat, invité de la rédaction aujourd'hui en remplacement de Dalil Boubaker, Abdallah Zekri, président de l'Observatoire international contre l'islamophobie et membre du bureau exécutif du CFCM. Bonjour monsieur.
Bonjour.
est toujours à mes côtés pour vous interroger, Antoine Maret. Une première question, monsieur Zécri. Nous évoquions à l'instant donc l'adoption hier au Sénat d'une proposition de loi visant à interdire le port des signes religieux lors des sorties scolaires. De quoi cette proposition de loi est-elle, selon vous, le signe? Diriez-vous, par exemple, que derrière les rappels à une laïcité sourcilleuse se cache aujourd'hui en France une forme d'islamophobie galopante?
Ben écoutez, c'est de la gesticulation de certains hommes politiques, de certains élus. Bon, le Sénat, il a voté, attendant d'abord que l'Assemblée nationale valide cela. Bon, j'ai entendu vos remarques, je ne sais pas si ça va continuer. Par contre, j'ai entendu quelque chose qui m'a choqué, notamment. Ils disent que le CFCM, il y a une commission énigmatique. Alors, quand on fait quelque chose, c'est énigmatique. Quand on fait rien, vous le dites, on fait rien. Et en plus, vous parlez d'un mystère qui plane. Il n'y a pas de mystère qui plane chez nous. On est clair, on est bien précis.
Alors, Antoine Maret va vous répondre.
Sauf que vous-même, hier, vous disiez, à propos de la définition des grands signes de radicalité, le côté, alors je ne sais pas si le mot énigmatique, s'il ne vous convient pas, peut-être en tout cas ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire, des signes de radicalité?
Non, il faut demander au gouvernement qui dise, qu'est-ce que c'est le signe de radicalité. Moi, je vous dis, est-ce que le fait d'avoir une barre, c'est un signe de radicalité? Je dis non. Est-ce que le fait de faire sa prière et d'être un fidèle croyant, c'est un signe de radicalité? Je dis non. Qu'on m'explique qu'un policier dans le système policier de France, ils n'ont même pas pu détecter qu'il était radical. Ils voulaient que moi, je vous détecte quelqu'un qui est radical. En plus, il a applaudi les attentats de Charlie Hebdo, il l'a laissé dans les services de police. Alors, la radicalité, il faut la combattre, il faut la définir. J'aimerais bien qu'on définisse la radicalité. Il y a des signes avant-coureurs, il est vrai que nous, au niveau des imams, il faut le remercier parce qu'ils ont fait un travail énorme sur la radicalisation, notamment les fidèles qui ne pas écouter les prêcheurs de haine, qui ne font pas écouter que ceux qui parlent de paroles anti-républicaines. Nous avons fait un travail, il faut le reconnaître. Maintenant, s'ils ne veulent pas reconnaître, c'est leur problème.
Alors il y a une phrase.
Juste, je me permets avant de poursuivre l'interview, puisque la communication est vraiment mauvaise. Est-ce que vous pourriez éventuellement éteindre votre haut-parleur et peut-être même vous déplacer un petit peu, monsieur Zécri? Merci.
Alors là, je vais. Donc, vous m'entendez normalement. Il y a une phrase du communiqué du CFCM qui fait couler beaucoup d'encre ce matin. Le port du voile est une prescription religieuse. C'est ce que vous dites. Auparavant, il y avait un débat sur cette question. Est-ce que ce débat a donc été tranché?
Le débat a été tranché. Ce n'est pas ambigu. Je dis, et nous disons, le CFCM et les musulmans de France théologiens, le port du voile est une prescription religieuse. En tout cas, qu'elle soit prescription religieuse ou pas, la loi n'interdit pas à une femme de porter le voile dans l'espace.
Là, on ne parle pas de la loi, on parle de l'avis du CFCM.
Non. La ville de Saint-Sienne, le voile est une prescription religieuse.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie, ce voile?
Par contre, toute personne est libre, celle qu'ils veulent. Nous, on n'oblige pas les femmes, il faut qu'on soit clair. On n'oblige pas les femmes de leur dire que le voile est une prescription religieuse, il faut le porter. Celles qui veulent le porter, elles le portent. Celles qui ne veulent pas le porter, qu'elles ne le portent pas.
Alors, c'est voilà. Une prescription religieuse. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, ce voile?
Pardon?
Qu'est-ce que ça signifie, ce voile, puisque selon vous, c'est une prescription religieuse?
Eh bien, c'est une prescription religieuse, c'est-à-dire que vous me posez la question, qu'est-ce que cela signifie? Je vous dis, c'est une prescription religieuse. Donc, celle qui applique la religion, qui va le porter, elle le porte, et les autres, elles ne le portent pas, mais ce n'est pas pour telle raison qu'elles ne le portent pas, qu'elles ne sont pas plus ou moins musulmanes.
Pourquoi est-ce que c'est une prescription religieuse et non pas traditionnelle ou...
Non, pas
culturel.
Parce que monsieur, j'ai dit préférer religieux parce que c'est marqué dans le Coran. Alors il y en a marre avec tous ces hommes politiques qui veulent nous apprendre notre religion. Est-ce que moi je m'occupe des catéchismes, je m'occupe de comment l'Église fonctionne? Nous avons une religion qui est le Coran, on est basé sur ça, c'est une prescription religieuse. Celui qui est content, il est content, celui qui n'est pas content, c'est son problème. Moi je n'ai pas à obéir des injonctions, soit des pouvoirs publics ou de certains hommes politiques, qui font la danse du ventre au Front National ou chez les Républicains.
Alors, vous vous félicitez des propos d'Emmanuel Macron qui insiste sur la liberté individuelle et citoyenne dans l'espace public. C'est ce que ça rejoint vos propos à l'instant. Est-ce que vous attendez néanmoins une prise de parole plus solennelle du chef de l'État sur ce sujet?
En quelques mots,
écoutez, il a déjà parlé. On attend des prises solennelles du président de la République. Je suis quand même surpris que vous n'avez pas passé des questions sur ce qui est passé à Bagnoles, où les musulmans sont inquiets, où il y a un climat délétère actuellement en France à cause du voile. Cette histoire du voile, elle ne date pas depuis l'histoire de la Bourgogne avec un élu du Front National. Ça fait 30 ans, depuis 89, on nous bastine avec le voile. Nous sommes des Français, des citoyens français, nous respectons les lois de la République, nous voulons vivre en paix. Il y en a marre avec tous ces hommes politiques qui font de l'islam, comme si tous les maux de la France viennent de l'islam et des musulmans.
Merci Abdallah Zekri, président, je le rappelle, de l'Observatoire international contre l'islamophobie et membre du bureau exécutif du CFCM, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Antoine Marette. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la pointe bretonne et qui devrait gagner les régions allant de la côte aquitaine à la Manche. Partout ailleurs, le ciel restera couvert. Seules quelques éclaircies se développeront de la région lyonnaise à la Provence. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Anne Fouquemberg pour le prochain journal de la rédaction.